Nous faisons de l'histoire des dogmes, de l'histoire de la théologie au compte-gouttes. La dernière fois que vous avez eu une petite dose, c'était le 21 avril. Ce qui veut dire que je crois nécessaire de rappeler brièvement où nous en sommes de l'étude du sujet que nous avons entamé. J'espère que nous allons pouvoir conclure, non pas aujourd'hui, mais quand même dans des délais assez rapprochés pour ne pas que les autres sujets que vous pouvez avoir dans le cœur restent interminablement différés. Notre préoccupation porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'autorité en matière de foi au sens doctrinal du terme, et dans l'Église, non pas tant par rapport à l'individu, non seulement par rapport à l'individu, mais dans l'Église. Nous avons, dans nos premières séances, nous en avons, je crois, eu trois sur le sujet déjà, nous avons vu comment, au temps du Nouveau Testament lui-même, dans l'Église des deux ou trois premières générations, ce qui faisait autorité, à coup sûr, c'était le texte de l'Ancien Testament. Pour les premiers chrétiens, c'était la seule Bible complète. Ils avaient sans doute quelques écrits du Nouveau Testament, mais ils n'étaient pas encore tout entiers dans leurs mains, au temps des apôtres vivants eux-mêmes. Donc ce qui faisait autorité, c'était le texte de l'Ancien Testament, auquel on se référait en disant « il est écrit ». C'était toute parole du Seigneur qu'on avait pu conserver en mémoire ou par écrit. Et c'était l'enseignement oral ou écrit des apôtres qui transmettaient les enseignements du Seigneur qu'ils avaient reçus par révélation directe ou parce qu'on leur avait fait connaître, dans le cas de Paul en tout cas c'est clair, ce que Jésus au cours de son ministère terrestre avait enseigné. Dans l'évolution de l'Église, on constate au second siècle une sorte de consolidation des instances d'autorité. Les évêques qui étaient simplement les anciens à la direction des églises locales au premier siècle deviennent de petits monarques en bien des lieux dans les églises. Sous leur responsabilité des territoires plus étendus, ça commence déjà au début du second siècle. Les lettres d'Ignace d'Antioche, au début du second siècle, montrent une sorte d'obsession de la centralisation épiscopale. Il faut que tout soit sous le contrôle de l'évêque ou épiscope. En même temps, on se rend compte qu'on ne peut plus se contenter des souvenirs que les uns et les autres avaient pu garder, des paroles apostoliques ou de ce qu'on avait attribué au Seigneur. Trop d'idées farfelues se mettent à foisonner, des mouvements sectaires, déviationnistes, qui prolongent ceux qui déjà avaient, disons, dressé la tête, manifesté leur présence au temps du Nouveau Testament, ces sectes s'étaient trop multipliées, en particulier les sectes de type gnostique, et en même temps donc que l'accent tombait sur l'autorité de l'évêque, on s'est mis à souligner, et sans doute assez salutaire pour le vrai christianisme biblique au second siècle, l'autorité de la confession de foi, de la règle de foi et des Écritures. Du canon des Écritures, de l'Ancien, bien sûr, c'était acquis, mais aussi du Nouveau Testament. On s'est rendu compte que les Évangiles et les Écrits des Apôtres constituaient un tout qui était le canon de la Nouvelle Alliance, d'où le nom de Nouveau Testament. Mais, en même temps qu'on insistait sur l'autorité souveraine et infaillible de ces Écrits, on mettait aussi l'accent en plus de l'accent que j'ai déjà évoqué sur l'autorité de l'évêque, sur le poids des grandes églises qui avaient été fondées par les apôtres pour faire pièce aux faux docteurs qui foisonnaient, il était très commode de dire ce que les apôtres ont enseigné, mais où allez-vous le trouver? Dans les églises qu'ils ont fondées, dans les églises qui peuvent se réclamer historiquement d'une continuité par rapport au temps des apôtres. D'où un accent sur la garantie que constituait la succession des évêques dans certaines grandes églises, et peu à peu, de plus en plus, à Rome. Rome avait l'avantage, d'une part, d'avoir, d'après ce qu'on disait, d'avoir eu deux apôtres, et non pas un seul, pour y déposer leur enseignement. Pierre et Paul, ces deux apôtres avaient subi le martyre dans la grande ville, puis c'était la capitale de l'Empire, ça comptait tout automatiquement. C'était aussi une église riche, et qui a su assumer ses responsabilités d'église riche en distribuant énormément de secours pour tous les frères en difficulté, en détresse, dans l'Empire. Mais ça lui a donné de l'influence, du prestige. Puis en plus, à la tête de l'église de Rome, il y a eu des évêques à la fois très capables et très autoritaires, qui ont su s'imposer aux autres. Alors nous avons vu donc cette évolution s'établir jusque vers la fin du second siècle après Jésus-Christ, ce que j'ai appelé l'adolescence de l'Église. Nous allons considérer maintenant la suite. Comment s'est élaboré un système que nous appelons, qu'on appelle assez ordinairement le catholicisme, le système catholique. Alors, nous n'allons pas considérer toutes les doctrines, toutes les orientations qui permettent de définir le système catholique en général. Nous nous concentrons bien sûr sur ce problème de l'autorité en matière de foi. À partir du IIIe siècle, on constate un renforcement très régulier du contrôle institutionnel. À travers les persécutions et les grands conflits doctrinaux internes sur la divinité de Jésus-Christ, sur l'union de ses natures, humanité-divinité, on voit peu à peu les responsables accroître le poids de leur autorité. Les conciles ou synodes, c'est-à-dire les réunions, les assemblées de responsables qui se réunissent pour trancher dans les controverses, deviennent de plus en plus importants. Les 3e, 4e, 5e siècles sont les siècles des grands conciles. Il n'y en a pas eu au second. Mais maintenant, ils deviennent une forme de fonctionnement de l'autorité dans l'Église tout à fait décisive. Tous les grands débats à propos de la personne de Jésus-Christ ont été tranchés dans des réunions conciliaires, parfois simplement régionales, mais parfois réunissant tous les chrétiens qu'on pouvait réunir et appelés pour cette raison écuméniques. Le mot écuménique, lorsqu'on parle des conciles écuméniques pour cette période, ne signifie pas du tout cherchant l'unité de tous les chrétiens séparés, etc. C'est pas du tout ce sens-là à l'époque. Ça veut simplement dire venant de toute la terre habitée. Le mot écuménique vient du participe passé habité, oikoumene. Et on employait ce terme pour la terre habitée. Alors les conciles prennent une grande importance. En même temps, l'épiscopat se hiérarchise. Des archevêques, c'est-à-dire des super-évêques, si vous voulez, se distinguent des simples évêques. Certains réussissent à porter même le titre de patriarche. Il y a de grandes disputes à ce propos, mais les évêques responsables des églises historiques les plus prestigieuses, qui se glorifiaient d'une fondation apostolique, réussissent, avec un large territoire de juridiction, a porté le nom de patriarche. Patriarche d'Alexandrie, patriarche de Jérusalem, d'Antioche, patriarche de Constantinople, et puis patriarche de Rome. Peu à peu, d'ailleurs, dans cette période, celui de Rome, qui est sans rival en Occident, et ça compte beaucoup aussi pour l'évolution. Les patriarches en Orient se font concurrence. Et ils se disputent souvent fort Mais celui de Rome, le patriarche d'Occident, est tout seul. Du coup, il a beaucoup plus les mains libres. Du coup, il arrive d'être pris comme arbitre pour les disputes des orientaux. Et chaque fois, il accroît un petit peu son prestige et son influence. Et alors qu'au début, on appelait pape, papa, père, hein, ça ne veut rien dire de plus, en soi. À peu près tous les dignitaires ecclésiastiques, comme on dit encore aujourd'hui, mon père, n'est-ce pas, dans l'usage poli à l'égard d'un simple curé. Voyez. On prend l'habitude, peu à peu, de réserver à l'évêque de Rome, patriarche d'Occident, ce terme de pape. Les dernières disputes en ce qui concerne le canon des Écritures cessent, pratiquement faute de combattants. Il n'y a pas de grand concile pour en trancher, ce n'est pas un point qui est débattu, mais vous savez, sur la liste exacte des livres du Nouveau Testament, il y avait eu des incertitudes, des hésitations, des controverses. Certains ajoutaient certains livres, quelques livres du christianisme ancien, mais non pas apostolique, qu'ils voulaient ajouter au canon. D'autres refusaient certains des livres du Nouveau Testament, par exemple l'Apocalypse. Après plusieurs générations de tâtonnements, on aboutit vers la fin du IVe siècle à un accord général et un concile régional à Carthage donne la liste qui est notre liste. C'est la liste qui a pratiquement fait l'accord de tous, de tous ceux en tout cas qui souscrivaient aux vérités orthodoxes en matière de christologie, donc qui constituaient l'Église dite universelle catholique dans ce sens et orthodoxe. Et à peu près à la même époque, un peu avant même, Athanase, le patriarche d'Alexandrie, avait aussi, dans une lettre officielle, donné la liste exacte des écrits du Nouveau Testament. Donc, le canon du Nouveau Testament, là, est bien délimité. Tout le monde reconnaît son autorité entière. Tout le monde reconnaît que c'est une écriture infaillible, qui ne se contredit, ni ne fait erreur. Mais il est comme enrobé dans le fonctionnement concret, ce canon du Nouveau Testament, par la tradition que les grands docteurs de l'Église, simultanément, enseignent avec souvent le prestige de leur titre d'évêque, de patriarche. On remarque que si la tradition au début de la période que nous considérons, et surtout considérée comme exégétique, c'est-à-dire une tradition de commentaire de la Bible. Voilà comment il faut bien comprendre la Bible. Peu à peu, elle prend le caractère d'une tradition dogmatique. Il n'y a pas encore, très franchement, bien que ça apparaisse assez vite, je vais le dire, l'idée que c'est une deuxième source de révélation. Non, ça n'apparaît pas encore d'emblée. Mais l'idée clé, c'est que les définitions des conciles, les enseignements sur lesquels les grands docteurs sont d'accord, doivent être acceptés. Qu'ils sont revêtus d'une autorité pratiquement de même caractère que l'Écriture sainte elle-même. Il ne s'agit pas seulement d'un guide pour bien lire l'Écriture, il s'agit de définitions de foi qu'il faut recevoir parce que les autorités compétentes, les conciles, les grands docteurs ont tranché à ce propos. Vous avez une évolution qui se dessine dans la notion même de tradition. Le mot tradition, je le rappelle, au tout début, je veux simplement dire transmission. Soit l'acte de transmettre, soit la chose qui est transmise. Et dans ce sens, on peut dire que le Nouveau Testament, c'est la tradition apostolique. Oui, c'est la tradition. Mais le sens devient plus en plus flou. Avec le Nouveau Testament, on inclut dans la tradition, à partir du 3e, 4e siècle, les commentaires des grands docteurs reconnus, et puis on ajoute les définitions dogmatiques des conciles. Ça devient un ensemble beaucoup plus vaste et flou, où on pense bien sûr, très sincèrement, que tout est en accord avec l'Écriture. On considère que cet ensemble est homogène.
Mais il n'était pas, il n'était quand même pas.
Alors, en ce qui concerne les définitions sur la christologie, je crois qu'il l'était. Je crois que ces définitions des conciles, fondamentalement, sont l'effet d'une victoire du message biblique sur les façons de penser qui étaient venues du paganisme, qui avaient la préférence des hérétiques, que c'est vraiment le message biblique qui a été reconnu et honoré. Mais je dis bien, sur les points qui ont fait l'objet des grandes controverses, en particulier donc concernant la personne de Jésus-Christ. Seulement, ce qui est arrivé à cette église des 3e et 4e siècle, ça me semble une leçon très, très utile pour nous aussi, c'est ce qui est arrivé à bien des gens qui sont vigilants sur un point, sur le point qui leur apparaît important, sur lequel ils savent qu'il y a des différences d'opinion, et puis une sorte de d'inattention, de distraction concernant d'autres points très importants, mais qui n'étaient pas tellement à l'ordre du jour. Cette église du 3e et du 4e siècle, c'est un excursus hein, par rapport à notre sujet que je fais pour répondre à la question de Jacques, cette église a été fidèle sur les points qui ont fait l'objet de controverses, où les gens se sont aperçus que oui, il y avait des idées tout à fait opposées au message biblique, malgré leurs prétentions, il fallait se battre là-dessus. La personne de Jésus-Christ, il fallait vraiment reconnaître qu'il est vrai Dieu, de vrai Dieu, que c'est pas une sorte de demi-dieu, c'est bien vu ça. Et ils sont fidèles à l'écriture là-dessus, mais ils se sont pas aperçus qu'en se battant là-dessus, alors ils laissaient filer la vérité biblique sur d'autres sujets. Par exemple, sur le sens même de la croix. C'est pas une petite affaire, c'est tout à fait au centre aussi. Sur le sens du baptême et de la scène. Là, ils ont adopté des façons de penser beaucoup plus caractéristiques du paganisme grec, mais sans en apercevoir. Personne n'a protesté pratiquement, parce que c'était pas l'objet de l'attention. Je crois que c'est une grande leçon pour nous aussi. Nous pouvons nous imaginer que nous sommes fidèles parce que nous nous battons pour la vérité de l'Écriture sur les points qui sont évidemment à l'ordre du jour. Tout le monde les a à l'esprit. Et puis, il est possible que dans le même temps, nous glissions assez loin de l'Écriture sur des points où, tout naïvement, nous croyons que c'est ça, oui, mais en fait, nous n'avons pas vérifié que c'est bien biblique. Voilà ce que je dirais sur cette question de fond qui était posée. Alors, on arrive à certaines déclarations soit heureuse, soit malheureuse, vers la fin de cette période très importante pour l'histoire de l'Église, où il y a eu un foisonnement de personnalités riches et fortes des 3e et 4e siècles. D'une part, affirmation de l'autorité de l'Écriture, et comme une autorité supérieure à toute autre. Saint Augustin, qui en Occident est le docteur suprême, celui qui a dominé nettement son temps et tous ses siècles de l'histoire ancienne de l'Église, depuis le temps des apôtres, les apôtres l'ont compris bien sûr, jusqu'à la Réforme, il n'y a pas eu en Occident d'homme de la taille d'Augustin, et peut-être même pas non plus en Orient. Et Augustin, dans sa lettre 19, qu'il a adressée à Saint Jérôme qui était ermite à Bethléem, et qui était le plus savant sans doute en matière de langue de son temps, Augustin dit très très clairement que ce sont seulement les livres du canon qui sont pour lui infaillibles, mais qu'il ne saurait être question pour lui de mettre aucune autre autorité sur le même pied, et que les conciles même pourraient être défaillants. Il conçoit que les conciles, malgré leur grand prestige, il les honore, en théorie au moins, pourrait s'écarter de l'absolue vérité, mais non pas l'Écriture sainte. Mais en même temps, ou un peu avant même, en Orient, vous avez deux hommes qui ont aussi combattu fort bien pour la vérité de la personne de Jésus-Christ, qui disent des choses inquiétantes. Basile, qui fut évêque de Césarée, qu'on a surnommé Basile le Grand à cause de sa grande influence au IVe siècle. Saint Augustin, lui, c'est autour de 400. Hein. Vous avez, si vous retenez la date de 400, vous le situez à peu près. Basile le Grand, un peu avant, en Orient, commence à parler de deux sources de doctrine, de révélation. Et la deuxième source, il joue un peu avec l'idée qu'elle pourrait être restée secrète, que l'Église a conservé dans sa mémoire orale des enseignements des apôtres, du Christ et des apôtres, qui n'auraient pas été mis par écrit au premier siècle, qui donc seraient restés secrets, mais dont l'Église pourrait faire état quand elle le jugerait bon. Alors ça, c'est une des premières mentions de cette idée d'une deuxième source de révélation, d'une tradition, d'abord orale en tout cas, pendant longtemps orale, qui contiendrait une information révélée que le Nouveau Testament, lui, ne comprendrait pas. Il est probable que Basile se laissait prendre au piège de certaines histoires apocryphes, comme on en trouve dans des écrits du IIe siècle, qui ont brodé sur l'enfance de Jésus, qui ont raconté des tas de choses, fruits d'imagination populaire, enjolivées, vous voyez. L'écriture, elle, est très très sombre. C'est une des marques d'authenticité du Nouveau Testament les plus impressionnantes que cette sobriété. Même les récits de miracles, il n'y a rien pour l'épate, pas d'enflure, alors que tout de suite, dès qu'on lit les écrits qu'on appelle apocryphes, souvent des écrits plus ou moins gnostiques, on voit que alors c'est un tout autre ton, on voit bien que c'est du merveilleux fabriqué à la chaîne par l'imagination populaire. Et il est probable que Basile a cru devoir ajouter foi à certaines de ces histoires. Un certain nombre de ces histoires ont joué un rôle important dans la vénération de Marie, qui aussi commence à s'établir dans ces siècles-là. L'idée que, par exemple, Marie est restée vierge après, dans l'accouchement et après, c'est une idée qui est apparue au IIe siècle, et qui est manifestement issue de cette forme de pensée et de piété que les gnostiques ont poussée à l'extrême, qui méprise le corps, qui considère que tout ce qui est corporel et matériel est entaché de mal. Alors, on a ces idées qui commencent à s'établir. Et je pense que Basile le Grand a pu lui céder quelque peu de terrain à une telle façon de penser. Le passage se trouve dans son traité sur l'Esprit Saint, au chapitre 27. Son ami Grégoire de Nazianz, qui était un excellent orateur, dans l'un de ses discours, va jusqu'à dire que le Saint-Esprit a révélé à l'Église des choses que le Fils n'a pas révélées aux apôtres. Ce qui, de nouveau, a l'air d'autoriser des additions au Nouveau Testament sous l'autorité de l'Église. Alors vous avez d'une part l'accent que la citation que j'évoquais tout à l'heure de l'épître 19 de saint Augustin représente, et puis d'autre part vous avez ces tendances nouvelles. Alors un peu après saint Augustin, un homme qui n'avait pas lui très grande envergure, un certain Vincent du monastère de Lérins, L-E-R-I-N-S, en Provence, a formulé une règle que l'on considère volontiers comme la règle que le catholicisme ensuite a adoptée sur le sujet qui nous occupe. Vincent de Lérins, qui est mort vers 450, a dit, quelques années après la mort de saint Augustin, que ce qu'il faut croire, c'est ce qui a été cru toujours, partout et par tous. Voilà ce qu'on appelle le canon lérinincien, le canon de Lérins, mais les reins, c'était le nom du monastère dont ce Vincent faisait partie. En fait, Vincent de Lérins dirigeait cela plus ou moins ouvertement contre l'autorité de Saint-Augustin. Saint-Augustin avait triomphé de ses adversaires sur les questions de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui détermine entièrement notre salut. Il n'y a pas de libre arbitre qui reste à l'homme comme face à la grâce de Dieu et indépendamment de la grâce de Dieu. Saint-Augustin avait fait triompher ses vues grâce à la supériorité de son intelligence, de son éloquence dans des conciles. Mais en fait, Saint-Augustin avait été là beaucoup plus net que toute sa tradition avant lui. Et il n'avait quand même pas convaincu tout le monde. Et en particulier en Provence, la Gaule méridionale, il y avait des gens qui, sans vouloir aller jusqu'à l'opinion franchement opposée à celle d'Augustin, essayaient de moyenner ce qu'on appelle le semi-pélagianisme. Et ce Vincent de Lérins était plutôt attiré par ces idées semi-pélagiennes. Il trouvait qu'Augustin y allait trop fort, était trop entier dans sa défense de la grâce de Dieu et de sa souveraineté. Et du coup, alors, il a essayé de mettre en valeur cette règle. Sous-entendu, ce que saint Augustin, lui, a affirmé de la grâce n'a pas été cru partout, toujours, par tous. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'il y avait derrière cette insistance de Vincent de Lérins. Il n'a pas obtenu, disons, de condamnation officielle des vues de saint Augustin, pas du tout. Officiellement, les opinions de saint Augustin sont restées les opinions de l'Église, la doctrine. En fait, beaucoup de clercs et beaucoup de laïcs parmi le peuple des fidèles sont devenus semi-pélagiens, sinon pélagiens entièrement. Dans les siècles qui ont suivi, les vrais augustiniens, 100%, ont été rares. Mais enfin, c'était toujours la doctrine officielle. Théoriquement, les conciles qui avaient défini les choses avaient donné raison à Augustin, mais il ne fallait pas revenir là-dessus. Alors, ce qui est intéressant dans ce canon de Vincent de Lérins, qui a été très très souvent cité ensuite, c'est qu'il introduit l'élément du consensus qui jusque-là n'avait pas été tellement mis en avant. L'idée que ce qui fait règle, c'est l'accord de tous dans l'Église. Jusqu'alors, on avait surtout mis l'accent sur les conciles, et les conciles écuméniques par-dessus tout, qui avaient réuni des évêques de l'ensemble du monde habité. Mais l'idée qu'il fallait chercher un consensus, que les questions sur lesquelles tout le monde avait été d'accord, alors c'était conclu, on pouvait classer, pouvait être sûr en matière de foi. Cette idée-là n'avait pas été tellement développée. Alors, le canon de Vincent de Lérins, cette règle qu'il pose, est intéressante à cet égard. Mais la grande question qui se pose aussitôt, c'est tous, par tous, mais quels tous? Il y avait eu des hérétiques à tous les siècles. On le savait bien, on les avait exclus, mais... En fait, le contexte du passage de Vincent de Lérins est assez clair. Il s'agit des prêtres et des docteurs, des prêtres et maîtres reconnus dans l'Église, et par la grande hiérarchie de l'Église universelle. C'est de ceux-là, et pas de n'importe qui, qu'il faut entendre le tous, ce qui a été toujours, partout et par tous les vrais responsables compétents. Reconnu par qui? Finalement reconnu par les autorités de l'Église instituée, et majoritaire. Voilà ce qui doit être cru. Il a ajouté en plus, non pas dans cette citation, mais dans ses écrits, une autre notion extrêmement intéressante. C'était pas un très grand bonhomme que ce Vincent de Lérins, mais il annonce quand même vraiment le catholicisme qui s'est édifié après lui. Il ajoute la notion d'un progrès dans la doctrine. Il s'est rendu compte que, malgré tout, on ne pouvait pas tout retrouvé dans le Nouveau Testament, il n'a pas été tellement tenté par l'idée d'une deuxième source, secrète, mais alors, il a introduit cette idée qu'il est tout à fait normal que l'acquis de foi grandisse, qu'il y ait un progrès dans la connaissance des mystères. Et il a utilisé l'image de la croissance organique, de l'évolution, qui est une image très moderne. Elle est déjà chez Vincent de Lérins au 5e siècle. Tout en affirmant que la vérité demeure identique à elle-même, il dit que la foi de l'Église demeure la même, il ajoute que comme une chose vivante, elle évolue et se déplie et se déploie en quelque sorte. Ça, c'est une idée assez caractéristique qui a été, je crois, de plus en plus facilement admise dans les siècles qui ont suivi. On peut signaler encore que le deuxième concile de Nicée a lancé un anathème contre quiconque rejette la tradition de l'Église, qu'elle soit orale ou écrite. Ce qui montre que la présence quand même de certains dissidents, vous voyez, avait agacé les responsables et qu'ils avaient jugé opportun donc de lancer un anathème, c'est-à-dire une malédiction, contre quiconque essaierait de jouer l'autorité de la Bible contre l'autorité de cette tradition de l'Église, de tout ce qui avait fait l'objet d'un consensus parmi les responsables reconnus de l'Église officielle avec sa hiérarchie. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'on pourrait dire. À la fin de cette période patristique, je crois qu'on peut résumer la situation de la manière suivante. Tout le monde est d'accord pour reconnaître l'autorité entière de tous les livres bibliques, tous ceux que nous reconnaissons comme part du canon. Tout le monde est d'accord pour considérer qu'ils sont infaillibles dans tout ce qu'ils nous enseignent. Probablement, en tout cas, presque tout le monde est d'accord pour penser que c'est l'autorité suprême, qu'aucune autre autorité dans le flot de la tradition qui porte la Bible jusqu'à nous, qu'aucune autre autorité n'a tout à fait sa force, son absolutité. Mais en même temps, personne n'a l'idée d'opposer l'Écriture à l'Église. L'idée qu'on pourrait se servir de l'Écriture pour dénoncer des déviations graves de l'Église même, telle qu'elle est conduite par ses représentants majeurs. Ça non plus, alors ça ne vient à l'idée de personne. L'autorité de l'Écriture est considérée comme suprême, mais elle fait corps avec toute cette tradition qui l'explique, qui y ajoute. Certains pensent qu'il y a même des choses tenues secrètes, qui ont été véhiculées oralement. En tout cas, ce que les grands docteurs, les patriarches, les conciles ont déclaré, doit être reçu par les fidèles, pas question de penser autrement. Voilà, en gros, me semble-t-il, la situation vers cette fin de l'âge des pères de l'Église, disons vers le 7e siècle, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. La période qui suit, on l'appelle traditionnellement Moyen-Âge. Le terme de Moyen-Âge a été critiqué, et il est en effet fort critiquable. Il a pour premier inconvénient de suggérer que c'est pas une époque intéressante. Moyen-Âge, c'est un âge entre deux. Alors on s'intéresse à ce qui précède, on s'intéresse à ce qui suit, puis cet entre-deux, ça reste dans le brouillard, surtout si on dit la nuit du Moyen-Âge, selon une expression courante. Alors qu'en fait, il y a des choses fort intéressantes qui se sont déroulées.
Vous savez qui a inventé cette appellation?
Je ne sais pas si ce n'est pas Pétrarque, c'est en tout cas au moment de la Renaissance seulement que cette expression est entrée en usage, parce qu'évidemment, les gens du Moyen-Âge n'ont jamais pensé qu'ils étaient au Moyen-Âge. En fait, pour eux, ils étaient les modernes. Ils étaient les modernes, ils venaient après les anciens. Et la notion de Moyen-Âge n'a pu surgir qu'à partir du moment où une autre époque, consciente d'être autre, c'est ouverte. Alors je crois que c'est au début de la Renaissance italienne que l'idée apparaît, et aussi l'idée qu'il s'agit d'une période sombre dont on va sortir comme on sort d'un tunnel. Mais je ne peux pas vous garantir plus précisément les choses. Alors le premier inconvénient, c'est de suggérer que c'est une époque dépourvue d'intérêt. Le second inconvénient, c'est de confondre, sous une même expression, des phases extrêmement différentes. En fait, il y a eu ce qu'on appelle maintenant parfois aussi des renaissances, au cours du Moyen-Âge, avant la Renaissance, qui a commencé en Italie, fin du XIIIe, début du XIVe, fin du XIVe, début du XVe. Avant la Renaissance, il y a eu des renaissances, c'est-à-dire des périodes glorieuses, avec des innovations, avec des penseurs de qualité. Il y a eu la Renaissance carolingienne sous Charlemagne, qui était un grand empereur et qui a su s'entourer d'intellectuels de qualité, en particulier d'un Britannique qui s'appelait Alcuin. C'était un homme qui mérite le respect. Et vous savez que le jeune humaniste Jean Covin de Noyon a modifié son nom en Calvin à la manière des humanistes, mais aussi en pensant que ça faisait l'anagramme de Alcuin. Par son nom même, il était heureux de faire référence à cet Alcuin de l'époque de Charlemagne, autour de 800 donc. Puis il y a eu les débuts de la scolastique, qui ont été assez brillants au XIe siècle. Et oui, je pense qu'on peut dire que le XIe siècle est un siècle déjà riche, fin du XIe siècle, et puis début du XIIe. Et puis alors il y a eu la renaissance du XIIIe siècle, avec le mouvement des communes, la fondation des universités, les ordres mendiants qui ont été créés et qui ont eu tout de suite beaucoup d'influence dans l'Église, les franciscains et dominicains. Il y a eu au moins trois moments particulièrement éclatants dans ce devenir du Moyen-Âge. Mais enfin, il faut bien simplifier les choses, il faut bien se condamner à des coups de rabot lorsqu'on expose les choses. Et sur notre sujet en particulier, je crois que l'expression de Moyen-Âge n'est pas si malheureuse que ça, qu'après tout, elle est assez appropriée. Sur notre sujet, il est vrai qu'il ne se passe pas grand chose pendant les siècles que nous considérons, c'est-à-dire en gros du 6e, 7e siècle jusqu'au 15e, 16e, jusqu'à la période de la Réforme. Il y a une évolution, mais elle est lente. Elle ne fait que confirmer, renforcer les tendances que je viens de décrire comme caractéristique de la fin de l'Antiquité, de la fin de l'âge patristique. Et dans certains cas au moins, on voit aussi des prises de conscience et des réactions des gens qui alors annoncent, par leur prudence au moins, par leur réserve face aux thèses de type catholique, les grands réformateurs dont j'espère nous pourrons parler la fois prochaine. Mais il n'y a pas de grand bouleversement pendant cette longue période, tant de siècles. Alors essayons de préciser un petit peu les choses. D'abord, une description assez générale de la mentalité médiévale. Les chrétiens, et tous sont censés être chrétiens, c'est le régime de chrétienté. Les chrétiens de nos pays occidentaux, nous considérons spécialement l'Occident, l'Orient a été beaucoup plus sclérosé, on a pu dire en un sens que pour l'Orient, la période de patristique a continué, mais sans père de l'Église très important pour surgir. Simplement, on en est resté au point où on en était arrivé avec Saint Jean de Damas à la fin de l'âge patristique. Mais pour l'Occident, les chrétiens, et tout le monde se pense un peu chrétien, puisque tout le monde est baptisé, etc., se voient surtout comme les héritiers et les disciples des anciens. Ils se voient très modestement dans la situation des jeunes inexpérimentés qui n'en savent pas beaucoup, pour lesquels les anciens ont un très grand prestige, et ils reçoivent d'eux, ils veulent préserver le legs et le faire fructifier, ils le prennent en charge, même quand ils se lancent dans des aventures intellectuelles à leur tour, au moment de ces renaissances dont j'ai parlé, ce n'est pas pour innover, c'est pour mettre en valeur ce qu'ils ont reçu. Le plus grand de tous les penseurs de l'époque, je vais y revenir à lui dans quelques instants, saint Thomas d'Aquin, donc la figure clé de la Renaissance du XIIIe siècle, a écrit des sommes. C'est tout à fait typique que l'ouvrage le plus prestigieux de l'époque, ce n'est pas un essai où on lance des idées nouvelles comme fait le moderne, ce n'est pas une encyclopédie non plus, c'est une somme. Il s'agit de recueillir tout ce qui a été dit, de le retravailler. Ces fidèles du temps de chrétienté se voient d'abord dans cette situation d'héritier. Au début, il faut bien dire qu'il n'y avait que ça à faire, effectivement. Dans le livre de Philippe Wolff sur l'éveil intellectuel de l'Europe que j'ai ici, qui est un livre extrêmement bien écrit et très intéressant à lire, il y a des descriptions hallucinantes sur les conditions matérielles du travail intellectuel après les grandes invasions barbares, l'effondrement de l'Empire romain. Ben c'est vrai que par rapport au temps de l'Antiquité, mais ils n'avaient aucun instrument de travail, ou presque, c'était des rustres, ils maniaient si difficilement le latin, ils ne savaient plus le grec, la plupart, sauf en Irlande, où la tradition de la langue grecque s'est un peu maintenue. C'est vrai que la seule chose à faire pour ceux qui dépassaient un peu cette masse très très fruste, c'était de préserver les quelques manuscrits qu'on avait encore, de les recopier, de faire attention, de préserver les bribes de savoir qui venaient des anciens. Il ne pouvait pas se lancer dans des travaux de construction nouvelle.
Wolff avec deux F, W-O-L-2-F, est dans la série Histoire de la pensée européenne, dans la collection Point du Seuil, les vagues intellectuelles de l'Europe. Dans cette série, il y a 3 ou 4 autres titres. Elle n'est pas complète, en fait. Je ne sais pas s'il la complète jamais. Mais ce n'est pas un ouvrage de théologien, mais lorsqu'il parle en théologie, c'est avec beaucoup de finesse. C'est un universitaire français et qui fait bien son boulot et qui écrit très agréablement. Et il fait sentir la manière dont c'est clair, souvent, moine, en particulier de l'époque. Vivait concrètement. À quelle difficulté il était compris. À quelle difficulté il était compris. Et c'est bien vrai que pendant des siècles, pas grand chose d'autre à faire que de préserver l'héritage ou ce qu'on pouvait encore en récupérer. Vous pensez que par exemple, l'œuvre d'Aristote, je dis ça pour illustrer mon propos, l'œuvre d'Aristote n'a été connue que pour une très petite fraction, grâce à Boès, un intellectuel du début de ce Moyen-Âge, qui avait recueilli les ouvrages de logique d'Aristote et les a fait passer au monde occidental. Mais tout le reste de l'œuvre d'Aristote était inconnu. Et ça a été un des moteurs de la renaissance intellectuelle du XIIIe siècle que la redécouverte d'Aristote. Les textes d'Aristote sont revenus par le moyen du rayonnement islamique. Les croisades et la présence de grandes universités en Espagne, islamiques, musulmanes, ont fait connaître des penseurs musulmans qui, eux, commenter le texte d'Aristote. Et c'est comme ça qu'Aristote est revenu en Occident. Mais pendant des siècles, on n'avait connu de lui pratiquement que des ouvrages de logique, très très peu. Alors quand les penseurs du XIIIe siècle, à Paris, ont découvert l'œuvre d'Aristote, mais ils ont été enthousiasmés, ils ont été tout excités. Voilà, alors là, c'est encore un renseignement additionnel très, très, très utile. Vous voyez comment les choses, par quel circuit les choses sont passées. Mais, donc, les gens du Moyen-Âge, les fidèles du Moyen-Âge, se pensent essentiellement comme aux bénéficiaires d'une tradition vénérée, sacro-sainte, où tout est ensemble. Il y a l'écriture, et puis il y a le reste. Le jésuite George Tavard, un américain, George Tavard, dans son livre Écriture ou Église, essaie de plaider même que pour ses auteurs, je pense même déjà pour certains pères de l'Église, les Écritures contiennent également les écrits des pères, qui pourront mener en tout cas. Je crois qu'aucune des citations qu'il me donne ne prouve cela réellement. Je crois qu'il dépasse de beaucoup ses preuves. Non, bien. La conscience demeure une distinction entre les écrits canoniques et puis les écrits des pères. Mais, à coup sûr, Tavard a raison de dire que nul ne pense à opposer à ce moment-là l'écriture au reste de cette grande tradition, de ce grand héritage. Il y a peut-être une petite différence dans la manière de traiter l'écriture. On continue d'utiliser très largement l'exégèse allégorique, comme les pères de l'Église l'ont eux-mêmes introduites. Et c'est une raison, d'ailleurs, l'exégèse allégorique, pourquoi il n'est pas question de réformer l'Église selon l'Écriture. L'exégèse allégorique fait dire à l'Écriture ce qu'on veut. Il suffit d'être assez ingénieux. Donc, si on utilise ce type d'exégèse allégorique, on pourra toujours justifier ce qui est admis dans l'Église à un moment donné. On pourra toujours trouver une méthode astucieuse pour trouver sous la lettre un tel enseignement dans l'écriture. Alors, je sais que la grande méthode d'exégèse de la Bible, biblique, était la méthode de l'allégorie, chercher les divergences derrière le sens littéral, porte ouverte à l'ingéniosité, l'arbitraire des hommes, se fait même empêcher que l'écriture reconnue souveraine exerce réellement sa souveraineté. Mais il y a quand même une petite différence, une nuance, me semble-t-il. Si je discerne bien, les pères de l'Église étaient plus mystiques, le mysticisme a persisté au Moyen-Âge aussi, bien sûr, mais ils cherchaient dans l'écriture les grandes images, les symboles du céleste et de la manière de s'élever jusqu'au ciel. Cela ne disparaît pas au Moyen-Âge. De toute façon, ils ne veulent pas de rupture, pas les hommes du Moyen-Âge. Mais l'accent porte bien davantage sur les enseignements éthiques, sur les règles que l'on trouve dans l'écriture. L'écriture prend, et la tradition avec, beaucoup plus le caractère d'un code massif pour tous les aspects de la vie. Alors il y a encore des gens qui quand même marquent fortement leur respect de l'écriture au-dessus de toute autre référence possible. Je voudrais vous lire certaines phrases, parce qu'elles sont belles, que cite Tavard, mais en même temps, je soulignerai qu'elles n'impliquaient pas la possibilité d'une véritable réforme de la foi de l'Église par l'écriture, car jamais l'antithèse n'était admise entre les deux. Jean Scott Erigène, qui est un grand isolé, au milieu du IXe siècle, déclarait « Il faut en tout suivre l'autorité de la Sainte Écriture ». Et là, il y a un très très beau passage, une prière qu'il adresse au Seigneur Jésus. « Seigneur Jésus, je ne demande pas d'autre récompense, pas d'autre bienfait, pas d'autre joie, qu'une pure intelligence exempte d'erreur de tes paroles, qui furent inspirées par l'Esprit Saint. C'est là le comble de mon bonheur, la cime de la contemplation parfaite, car il n'y a rien au-delà. Nulle part ailleurs on ne peut te chercher aussi efficacement que dans tes paroles. tu vis en elle, tu y introduis ceux qui te cherchent et qui t'aiment. C'est là que tu prépares à tes élus le banquet spirituel de la connaissance véritable. C'est là que, passant auprès d'eux, tu pourvois à leurs besoins. Mais ce qu'il faut tout de suite ajouter à ces paroles si belles, hein, c'est vraiment, c'est que ce même Scotérigène a emprunté la grosse part de sa théologie à une philosophie pratiquement païenne, qu'il est très près du panthéisme, et que tout en disant son amour de l'écriture, qui est sans doute sincère, il a fait une théologie, mais aussi peu biblique que possible. Voilà une situation très, très significative. Un peu plus loin, beaucoup plus positif, net quand même. Rupert de Deutz, D-E-U-T-Z, qui a vécu au début du XIIe siècle, qui était un moine de l'ordre de Cluny, qui a fait une très grande influence, un moine d'un ordre qui avait été suscité parce que les ordres plus anciens avaient été péris, s'étaient corrompus. Le père de Deutz dit par exemple, toutes les conclusions auxquelles on peut arriver ou qu'on peut déduire en dehors de la Sainte Écriture ne servent en rien la gloire et la louange du Dieu Tout-Puissant. Nul ne peut imposer à un catholique une conclusion, quelle qu'elle soit, à laquelle on est parvenu hors de la règle des Saintes Écritures. Efforçons-nous, avec l'aide de Dieu, de ne pas tomber dans la condamnation encourue par le diable. Car le Dieu Tout-Puissant ne nous en libérera pas. Il ne peut et ne veut rien faire qui soit contraire aux Écritures. C'est une expression quand même très très forte. Il dit un peu plus loin, c'est encore plus fort, la nécessité me force à dire que les écrits du bienheureux Augustin n'appartiennent pas au canon et que nous ne devons pas leur accorder le même crédit qu'aux livres canoniques. Pouvais-je penser que c'était la chose nouvelle ou inconnue pour mes adversaires ? Qui pourtant n'étaient pas peu fiers de leur érudition, surtout lorsqu'ils se comparaient à moi, qu'ils pensaient ignorant et encore bien jeune. Pourtant, ils ont entrepris de répandre le bruit que j'étais hérétique, parce que j'avais dit que le bienheureux Augustin n'était pas dans le canon. Vous voyez comme c'est intéressant qu'il y ait une telle protestation de sa part. Puis, à peu près à la même époque, un tout petit peu plus tard, Hugues de Saint-Victor, Saint-Victor, c'était un monastère à Paris qui a compté parmi ses moines beaucoup de théologiens de qualité, surtout à cette époque. Je pense que l'ensemble du passage est intéressant parce qu'il nous montre un peu les deux côtés de l'affaire. La Sainte Écriture est tout entière contenue dans les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. L'un et l'autre sont divisés en trois parties. L'Ancien Testament comprend la loi, les prophètes et les hagiographes. Le Nouveau, l'Évangile, les apôtres et les pères. Il a su que ça pue bien sûr tabard pour dire que les pères étaient compris. Mais la suite va montrer quand même que c'est pas ça. Dans la dernière catégorie, celle des pères, la première place revient au décrétal que nous appelons canonique. Les décrétales, c'était les décrets du pape. C'est au Moyen-Âge, vous avez pris l'habitude, début du Moyen-Âge pratiquement, pour signifier ses volontés par des lettres décrets, le décrétal. Dans la dernière catégorie, celle des pères, la première place revient au décrétal que nous appelons canonique, c'est-à-dire ayant valeur de règle. Viennent ensuite les écrits des saints pères, à savoir Jérôme, Augustin, Ambroise, Grégoire, Isidore, Origène, Bède et autres docteurs dont les œuvres sont innombrables. Mais ces écrits des pères ne sont pas regardés comme faisant partie du texte des Saintes Écritures. Il précise bien, parce que c'est ce qui permet de répondre quand même à ta part. Il en va pour eux, comme pour certains livres de l'Ancien Testament, tels que la Sagesse de Salomon et d'autres, qui ne sont pas inscrits au canon, mais qu'on lit cependant. Ainsi donc, le texte, et pour ainsi dire la totalité du corps des Saintes Écritures, est contenu essentiellement en 30 livres, dont 22 dans l'Ancien Testament et 8 dans le Nouveau, comme nous l'avons montré plus haut, parce qu'il regroupe plusieurs livres. Il y en a que 8, non pas qu'il exclut des livres du Nouveau Testament, mais parce qu'il en compte que 8 en en regroupant plusieurs. Les autres écrits sont en quelque sorte ajoutés à ceux-ci et ils en émanent. Cette division tripartite montre très bien l'harmonie des deux testaments, car de même que les prophètes viennent après la loi et les hagiographes après les prophètes, De même, les apôtres viennent après l'Évangile et les docteurs après les apôtres. Une admirable disposition du gouvernement divin a fait que, tandis que la vérité pleine et parfaite se trouve en chacune des Écritures, aucune cependant n'est superflue. Vous voyez, alors c'est, à mon avis, à la fois bien clair. Pour lui, l'Écriture, c'est ce que nous appelons aussi la Bible. Il n'y met pas les livres apocryphes que les catholiques, plus tard, au Concile de Trente, ont déclaré deutérocanoniques. Il ne les y met pas. Ce n'est pas le texte des Saintes Écritures, dit-il, quand il précise des choses. Mais en même temps, vous voyez, parce qu'il est tenté par cette division tripartite, il s'est dit, ça fait bien de retrouver dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, aussi une division tripartite, alors il met les pères après les évangiles du Christ et les apôtres. Donc il y a quand même une espèce de flou, et bien sûr, il est évident que pour lui, il ne serait pas question de prendre la Bible pour se mettre à critiquer la tradition des pères et les décrétales des papes. Vous voyez comment les choses se présentent. Je crois que c'est assez significatif. C'est la division hébraïque. Ce sont les écrits. Les écrits. Oui, c'est une traduction possible. C'est utilisé. Les hagiographes, ce sont les écrivains sacrés. Mais ça peut s'appliquer spécialement pour les autres écrits qui forment la troisième partie du canon hébraïque. Oui, alors, il n'y a normalement pas les prophètes, sauf Daniel, qui n'est pas compté parmi les prophètes. Et vous avez donc la loi, ça a été de Moïse. Les prophètes, d'une part antérieurs, ce sont nos livres historiques, mais pas les chroniques, vous avez passé élu. Samuel, juge Samuel, roi. Et appelés prophètes antérieurs, et puis les prophètes postérieurs, qui sont nos prophètes, les trois grands et les douze petits. Et puis, alors le reste, tout le reste, est mis sous la catégorie écrit. Écrit, et ici, il dit hagiographe. Alors les psaumes, les proverbes, Job, Daniel, chronique. C'est la division du canon hébreu, et vous voyez que Hugues de Saint-Victor, ici, la reprend. Alors, il me semble qu'on peut ajouter trois grandes choses, je prends encore 5 minutes hein, pour le faire, si vous me l'accordez, pour compléter cette présentation. Au milieu, environ, au milieu du XIIe siècle, un homme a surgi qui, à bien des égards, figure de précurseur des temps modernes, à notre sens du terme, avec une intelligence très critique, très mobile, un sens du sujet individuel qui semblait en avance sur son temps. C'était Abélard, dont aussi les relations avec Héloïse représentent également comme un signe des temps, comme une préfiguration des formes de la relation amoureuse moderne. Alors cet Abélard a écrit un livre extrêmement corrosif et audacieux, sinon téméraire d'ailleurs. Il s'est fait condamner. Le pauvre a subi de plein fouet le choc en retour. Saint Bernard de Clairvaux l'a poursuivi d'une haine implacable. Tout saint qu'il ait été. Il a écrit un livre intitulé « Oui et non ».« Sic et non » en latin. « Oui et non ». Où il prend un malin plaisir à mettre des citations contradictoires des pères de l'Église et de la tradition. Montrant que c'est pas facile de discerner un vrai consensus. Lui, il montre une autre attitude que celle de ses héritiers modestes qui recueillent tout. L'intelligence critique, il dit oui, mais ça colle pas, c'est contradictoire. Et alors, on lui a souvent imputé la même attitude à l'égard de la Bible. On a pensé qu'il était aussi un précurseur du libéralisme, du modernisme, et que si dans la Bible il trouvait des contradictions. Mais en fait, Philippe Wolff, dans ce livre, montre très bien que là, on ne l'a pas bien compris. Et il est très significatif qu'Abélard ait pris grand soin d'exclure l'idée d'une erreur, d'une contradiction dans la Bible. Il a enseigné des règles d'interprétation, de bon sens d'ailleurs, assez bien conçues, pour justement débrouiller les difficultés qu'on trouve aussi dans la Bible. Oui, dans la Bible aussi, il peut apparaître que des passages se contredisent. Et Abélard est l'un des premiers à avoir montrer quelles règles on pouvait suivre pour réduire ces apparences de contradiction. Alors, sur ce point, à mon avis, il n'est pas hérétique. Sur ce point, il n'est pas hérétique, nous pourrions vraiment le suivre. Sur d'autres points de sa théologie, si, malheureusement, sur l'expiation en particulier, il a des tendances malheureuses. Mais la doctrine de l'expiation n'était vraiment reconnue clairement par personne à son époque. Deuxième mention, saint Thomas d'Aquin, l'auteur majeur dont j'ai parlé tout à l'heure, donc milieu du XIIIe siècle, un siècle plus tard en gros, saint Thomas d'Aquin, qui est devenu le docteur de référence pour le catholicisme, était particulièrement prudent sur le sujet et rigoureux. Je voudrais vous lire ce qu'il a écrit sur la question, et ça se trouve dans la première partie de la Somme théologique, dans la première question qu'il traite à l'article 8. Vous allez voir que saint Thomas d'Aquin, par rapport même à certains pères de l'Église, est, je dirais, plus près de nous, plus rigoureux et lucide. Il s'agit d'un texte où il parle des arguments d'autorité à faire valoir dans l'édification de la doctrine et de l'usage de la raison. Il dit « Les arguments de la raison humaine sont impropres pour démontrer ce qui est de foi, mais il reste qu'à partir des articles de foi, la doctrine sacrée peut prouver autre chose, comme on vient de le dire. Il est certain que notre doctrine doit user d'arguments d'autorité, et cela lui est souverainement propre. Cela tient à ce que les principes de la doctrine sacrée nous viennent de la révélation, et qu'ainsi on doit accorder foi à l'autorité de ceux par qui la révélation a été faite. Toutefois, la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non certes pour prouver la foi, ce qui serait l'abolir, mais pour mettre en lumière certaines autres choses qu'elle contient, comme Paul a cité les philosophes, dit-il un peu plus loin. Il faut prendre garde cependant que de telles autorités, la doctrine sacrée n'use qu'au titre d'arguments étrangers à sa nature et n'ayant qu'une valeur de probabilité. Au contraire, c'est un usage propre qu'elle fait des autorités de l'écriture canonique. Quant aux autorités des autres docteurs de l'Église, elle en use pour une argumentation propre aussi, mais seulement probable. Cela tient à ce que notre foi repose sur la révélation faite aux apôtres et aux prophètes, non sur d'autres révélations, s'il en existe, faites à d'autres docteurs. C'est pourquoi, écrivant à saint Jérôme, saint Augustin déclare « Les livres des Écritures canoniques sont les seuls auxquels j'accorde un tel honneur, que je crois très fermement leurs auteurs incapables d'errer en ce qu'ils écrivent. Les autres, si je les lis, ce n'est point parce qu'ils ont pensé une chose ou l'ont écrite que je l'estime vraie, quelque éminent qu'il puisse être en sainteté et en doctrine. » Vous remarquez, la citation que j'évoquais tout à l'heure, je n'ai pas lu parce que justement j'allais la lire maintenant, la citation de saint Augustin, qui est très très forte, vous voyez, et l'entier accord de saint Thomas d'Aquin, qui souligne qu'il va utiliser d'autres docteurs que les Écritures, mais seulement à titre probable. Il aura là des arguments, oui, intéressants, la théologie a le droit de s'y référer, mais ce n'est pas l'absolue souveraineté qui appartient seule aux Écritures. Vous voyez, il était très très précis, avec son style sec, mais transparent. Saint Thomas d'Aquin dit ici les choses remarquablement. Mais chez lui non plus, pas d'opposition entre l'Église et les Saintes Écritures. Vous voyez, il a beau dire le principe assez clairement, il n'a jamais pensé qu'il devait réformer les pratiques de l'Église. Il a, en pratique, continué à lire l'Écriture d'une manière allégorique, bien qu'il ait dit, normalement, pour les doctrines, il faudrait le sens littéral. Il a dit aussi cela. Mais en fait, il donne dans l'allégorie très très fort, lui aussi, et il est le docteur du catholicisme, on ne peut pas l'empêcher. Vous voyez la complexité de la situation? Alors, ce qui resterait à dire, mais nous pourrons le dire en préface la fois prochaine, c'est qu'il y a eu certains hommes, quand même, qui ont commencer à se poser la question de la relation entre l'Écriture et l'Église, et se dire, est-ce que l'Écriture ne devrait pas nous conduire à des redressements et peut-être des dénonciations quant aux pratiques et aux croyances officielles de l'Église.
J'avais deux questions à vous poser, mais vous n'êtes pas. qui fait la tradition, vous savez, il y a un livre que vous avez certainement lu, les logia, les paroles attribuées au Seigneur.
Oui, oui, disons qu'il y a des logia prétendus, au moins, qu'on a retrouvés dans divers textes apocryphes.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y en a qui certains qui rappellent, que, par exemple, tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu. Enfin, naturellement, on peut.
Oui. Je crois qu'il nous faut être extrêmement méfiants à cet égard. Ces prétendus recueils de logia, c'est-à-dire de paroles dites par Jésus, c'est ce que veut dire le mot logia, c'est le pluriel de logion en grec, ces prétendus recueils de logia ont été essentiellement forgés par des hérétiques, des faux docteurs, qui ont utilisé certaines vraies paroles qu'ils avaient trouvées dans les évangiles pour mieux authentifier leur œuvre. Mais, à mon avis, il y a très très peu de chances qui est une vraie parole de Jésus, non recueillie dans les évangiles, et réellement transmise par ce canal. En théorie, ce n'est pas totalement exclu, mais je crois qu'il y a très très peu de chance.
Il est vrai que la lecture de ces livres ne donne pas grand-chose.
Ah non, pas d'accord. Et oui, même si on pourrait à la rigueur lui donner une signification à peu près orthodoxe, malgré tout, elle est dangereuse aussi. Certains évangéliques qualifiés pensent qu'il peut y avoir eu deux, trois paroles, peut-être, authentiques de Jésus, préservées seulement dans ces textes, mais je crois qu'il nous faut être d'une extrême prudence à cet égard. Et je vous signale qu'il y a tout un courant de spiritualité malsaine qui fait des adeptes aujourd'hui en France, qui croient pouvoir s'autoriser de ces livres, de l'évangile de Thomas, etc., qui sont des écrits gnostiques. Il s'agit d'une spiritualité de type gnostique, donc celle qui a failli gangrener l'Église au IIe siècle et contre laquelle la parole de Dieu a remporté la victoire. Nous ne devons surtout pas nous laisser piéger et laisser des gens autour de nous. Pardon. Là, je pense spécialement aux éditions Metanoia. Il y a une maison d'édition qui a pris le titre magnifique de Metanoia. J'ai lu un livre intitulé « Saint Paul, le colosse au pied d'argile », abominable, qui essaye d'opposer Jésus et Saint Paul. Un autre livre au moins sur Jésus, je crois que c'est Gilabert, l'auteur, Émile Gilabert. Et c'est du gnosticisme à 100%, et qui prétend s'autoriser de ses ouvrages en fait gnostiques. Nous ne devons pas du tout nous laisser impressionner par ça.
On intéresse aussi dans le monde évangélique contemporain, disons à peu près contemporain. Oui. Est-ce qu'il y aurait eu des évolutions comme ça, plus ou moins rapides, un peu dangereuses, et plus ou moins inaperçues?
Je crois qu'il serait bon que nous y réfléchissions, que M. Morel a la parole de sagesse qui vous convient. Quand nous viendrons au XXe siècle, en achèvement de notre travail, il serait intéressant de nous poser la question. Parce que c'est le débouché pratique éventuel de notre travail. Pouvons-nous tirer des leçons de cette longue histoire qui s'applique à ce que nous voyons aujourd'hui? Merci bien.
Merci.